Eh bien, comme le disait le papier de préparation, enfin de résumé que je vous avais envoyé, je me proposais m'interroger sur la question des distances entre les humains et les animaux, les distances réelles, les distances imaginées, voire imaginaires, et pour tâcher de mesurer ce qu'il y a de, me semble-t-il, particulier dans notre époque, particulier et propre à notre époque, dans ce qui concerne les relations avec les hommes et les animaux. Si on part d'un constat massif, sommaire. On observe que, à première vue du moins, semble-t-il, les animaux sont ou bien trop près, alors dans un premier temps je dirais ou bien très près, ou bien très loin. Le très près étant trop près du point de vue de ceux qui sont moins près, et le très loin étant trop loin du point de vue de ceux qui sont moins loin. Trop près, c'est tout ce qui relève de la thématique des animaux familiers. Je n'entrerai pas dans le détail des descriptions et du recensement et des descriptions des relations entre les humains, notamment citadins, et leurs animaux familiers, puisque en ville, on ne peut pas avoir de compagnons de travail. Les animaux ne peuvent pas être des compagnons de travail, ils sont nécessairement des compagnons de loisirs et, comme on dit de nos jours, de vie. La vie est certainement différente selon qu'on a des animaux ou qu'on n'en a pas. Elle est à coup sûr très différente aussi selon le type d'animaux que l'on a. Il est hors de doute que les relations traditionnelles des humains, pas seulement ruraux, des citadins aussi, les relations traditionnelles avec leurs animaux, qui étaient massivement et d'abord des relations de travail, étaient d'une toute autre nature que les relations que peuvent entretenir les citadins actuels et même un certain nombre de ruraux, tout dépendant de ce qu'on met sous le terme de ruraux. C'est par rural, on entend quelqu'un qui vit à la campagne, ce n'est pas ce auquel je pense en ce moment. Si par ruraux, on entend des gens qui travaillent à la campagne et qui, à ce titre, peuvent avoir besoin d'animaux, notamment les éleveurs, typiquement, mais aussi les chasseurs. Mais il est vrai que la chasse et de ses activités, on nie puisque les hommes s'y montrent cruels avec les bêtes et qu'il y a tout un débat là-dessus, comme vous savez certainement. Donc, on est dans une situation où les citadins, plus encore que les ruraux, sont passionnés d'animaux, pas tous. Quand c'est, comme disent les enfants, pour de vrai, il s'agit des animaux de compagnie, des chiens et des chats principalement, à quoi il faut ajouter quelques tortues et quelques reptiles, bien qu'ils soient interdits, pour des raisons de sécurité évidentes. D'autre part, des relations compagnie qui étaient d'un tout autre registre. Mais si l'on schématise, si l'on parcourt à vol d'oiseau d'assez haut l'histoire des relations entre les humains et les animaux, les relations essentielles ont été de compagnonnage dans le travail, une fois que la domestication a été faite, et à toutes époques, des relations de prédation, évidemment. La prédation n'étant d'ailleurs pas toujours à sens unique de l'homme vers les animaux, sur les animaux, elle pouvait fort bien être des animaux sur les hommes, le cas typique qui a longtemps donner du souci et qui actuellement fait débat, mais pour d'autres raisons, c'est évidemment celui du loup. D'ailleurs, selon les régions du monde où l'on habite, que ce soit le loup, le lion, le tigre et quelques autres animaux voraces. Donc, ce qui me paraît frappant et qui a été le point de départ de ma proposition est le contraste qu'il y a entre des animaux fortement aimés, chouchoutés, dorlotés, et qui sont, en ce sens-là, trop près, très près des humains. Ils sont traités comme des humains. Voilà en quoi ils sont prêts. Et à ce titre, ils sont protégés, chouchoutés, dorlotés. Ou bien, à l'autre bout, des animaux tout à fait éloignés, dont on n'a pas l'ombre du début, du commencement, de l'aspect même qu'ils peuvent avoir. Par exemple, les 95% de la faune sous-marine, de la faune marine, nous est inconnue, tout venant de l'humanité. La plupart des gens ne connaissent à peu près bien que la faune de la région qu'ils habitent ou bien de quelques régions qu'ils ont visitées à l'occasion de safari, car les animaux sont des êtres que l'on aime, que l'on défend, mais que l'on va voir comme on va voir un spectacle. C'est les deux points de contraste. Les uns très très près, les autres très très loin, et quand j'évoque le très loin, je laisse de côté tout ce qui n'est pas pour les êtres humains, ce que François Poplin appelle des animaux vrais. Les animaux vrais, c'est-à-dire les grands mammifères, les mammifères, j'allais dire de taille normale, pas l'éléphant, les mammifères habituels de nos contrées, qui sont, si je puis dire, à gabarit humain. L'expression d'animaux vrais, il la tire de la lecture, d'une lecture extrêmement attentive de Buffon, qui énumère les diverses catégories animales et qui omet Buffon, le grand Buffon, oublie les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas vraiment des animaux parce que ce n'est pas des mammifères. En gros, les animaux vrais, ce sont les mammifères et plus vrais que les autres sont ceux qui sont de nos régions ou du moins de la région du locuteur, quelle qu'elle soit. Le tigre a certainement plus de réalité dans certaines régions du monde qu'il n'en a ici même. La question à partir de là était de savoir quelles sont les caractéristiques de ce genre de relation. J'étais en train de dire que de vous indiquer les raisons qui m'avaient fait proposer cette communication que je ne prévoyais pas à telle distance. Dans les sociétés urbanisées, on a une très grande proximité, si je résume, une très grande proximité avec certains animaux, des animaux familiers, et une curiosité universelle, mais en même temps une distance maximale pour tous les animaux qui ne sont pas avec nous, citadins que nous sommes, plus ou moins tous, qui ne sont pas avec nous dans des relations réelles, effectives, empiriques, concrètes. On a là une configuration qui me paraît tout à fait remarquable en ce que il semble qu'elle exaspère, qu'elle conduise à des sortes de paroxysmes les relations, et il faut préciser immédiatement, réelles ou imaginaires, les gens peuvent avoir avec toutes sortes d'animaux. Les chiens et les chats sont choyés comme ils ne l'ont jamais été dans l'histoire de l'humanité. Volailles donnent des inquiétudes à ceux qui se demandent s'ils vont acheter un poulet label rouge ou un poulet standard. Tout à fait entre nous, je recommande vivement le label rouge. Les contrôles sont nettement plus fiables. Qui se posent donc des questions de relations très indirectes avec les animaux. C'est au point d'ailleurs qu'on recueille presque chaque jour des témoignages de gens qui ont des enfants en bas âge et qui, un jour à table, demandent d'où vient la viande qui est dans leur assiette. Mais d'un poulet. Comment un vrai poulet s'il a fait un petit tour au salon de l'agriculture ou à la campagne? Autrement dit, produits animaux, comme dit la profession, les produits animaux sont pour les consommateurs complètement coupés des animaux qui les produisent, c'est-à-dire donc du monde des éleveurs. Dans cette coupure, c'est dans cette cassure à mon avis, peuvent s'introduire toutes les théories, toutes les images. Dans certains cas, on est obligé de dire tous les délires qui baignent toutes nos relations avec les animaux. Sur ces questions-là, on a une inflation de discours d'une part, une raréfaction de l'expérience d'autre part. On parle, comme disent par exemple les éleveurs, mais comme disent aussi les vétérinaires, sur lesquels je fais une sorte de travail ethnologique très, très informel, mais qui en fait est finalement plus fructueux que quand on le fait méthodiquement. Vétérinaire des villes et des champs et éleveurs, par exemple, sont d'accord pour dire que l'affection pour les bêtes est, dans bien des cas, pas toujours, et dans bien des cas, inversement proportionnel à la connaissance qu'ils ont des bêtes. Moins on les connaît, plus on les aime. Il y a des cas où on comprend pourquoi, mais dans d'autres, c'est moins évident. Et surtout, ça contribue à donner aux gens qui sont compétents à la matière, qui connaissent bien les bêtes, ça leur donne une irritation qui ne peut pas contribuer à apaiser le débat. D'autant que le débat se repose périodiquement. Il y a 4 ou 5 ans, Vanessa se rappellera sans doute la date, je ne me rappelle plus exactement, avait eu lieu des rencontres animales et société à l'initiative de toutes sortes d'associations et du ministère de l'Agriculture au cours desquelles nous avons pu observer combien était grande la diversité des points de vue là-dessus. On la soupçonnait, mais dans certains cas, elle atteignait des dimensions vraiment stupéfiantes, combien un certain nombre de problèmes étaient apparemment insolubles. Une sorte de queue de la comète de ces rencontres, queue de comète un peu stimulée, va venir dans les mois qui viennent, sous la forme d'un colloque d'abord et puis d'un projet de loi qui doit être déposé devant le Parlement concernant les questions de relations avec les animaux et de protection des animaux, où j'avoue que j'attends avec impatience de voir comment la chose tournera. Le colloque est préparé par des chercheurs chevronnés dont les positions politiques, puisqu'il s'agira de loi, donc de politique à travers le droit, dont les positions sont tout à fait connues sur cette question-là et qui risquent fort de susciter des débats un petit peu houleux. Alors, les débats sur les bêtes, qui mettent-ils en présence? Schématiquement, si on se réfère aux enquêtes d'opinion, il y a un clivage très très net entre la France rurale et la France citadine. Et plus elle est citadine, et plus elle est ignorante de la réalité des bêtes et des relations avec elles, et plus elle est pour une protection des bêtes, c'est-à-dire, c'est l'interprétation qui vient à l'esprit, je n'en vois pas beaucoup d'autres, c'est-à-dire que le citadin qui a un chien ou un chat ou les deux, projette sur tous les animaux qui sont en interaction avec des humains le type de relation qu'il peut avoir avec son chien ou son chat. Il est évident qu'avec les vaches, les moutons et les volailles, ce ne sera pas le même type de relation pour toutes les raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Donc ça, c'est le deuxième élément du point de départ. Il y a enfin un dernier point et le ratage de l'avion hier m'a permis cette nuit, j'ai eu un peu de mal à dormir, m'a permis cette nuit de regarder la diffusion sur Arte, la chaîne télévision Arte, la diffusion du très très long documentaire son nom m'échappe à l'instant, de Lanzmann, intitulé Shoah. Shoah, comme vous le savez et comme son nom l'indique, est un très long documentaire qui interviewe toutes les parties prenantes de l'extermination des Juifs d'Europe, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'historien. La revision, je l'avais vu en son temps, voir à nouveau ce documentaire, alors que c'est devenu un lieu commun de la littérature animaliste que d'utiliser la notion de Shoah à propos des animaux est un pur scandale. On en avait déjà eu une illustration dans les années précédentes. Était paru un ouvrage intitulé « Un éternel Treblinka », Treblinka étant l'un des noms, si je puis dire, l'un des noms d'extermination qui parle. Il y a Dachau et Treblinka. Dachau étant, enfin, un peu différent. De tous les camps, n'étaient pas le même régime. L'argumentation, le livre est l'ouvrage d'un certain Patterson, je ne sais plus son prénom à l'instant où je vous parle, et ça s'intitule L'éternel Treblinka. L'éternel Treblinka, c'est l'extermination injuste, bien sûr, l'extermination alimentaire cynique des animaux. Et l'argument que la vision de Shoah cette nuit m'a ravivé intensément. L'argument est le suivant. Quantité de déportés compare la façon dont ils étaient traités dans les camps et un peu avant l'entrée même. Donner aux déportés l'impression d'être traités comme du bétail, comme des bêtes, c'est l'expression consacrée, bien sûr, chaque fois qu'on est maltraité. Un tel a été désagréable, il m'a traité comme un chien, etc. Bon. Vu le traitement de certains chiens de nos jours, je pense que dans peu de temps, on pourra se réjouir d'être traité comme un chien. L'argument donc de Patterson est les déportés témoignent tous qu'ils étaient traités comme des bêtes. Or, c'est pas du tout un hasard, car la façon dont les animaux sont traités dans les abattoirs et dans l'amener aux abattoirs, et la façon dont étaient traités, les déportés vers le camp de la mort, ces façons-là sont parfaitement homologues. Hitler, alors je vous passe le détail de l'argumentation, mais c'est plein d'absurdités. Hitler aurait été en contact avec Ford, lequel était extrêmement fasciste et avait contribué à diffuser les protocoles des sages de Sion, et aurait été bien informé, puisque Ford a inventé, ça c'est vrai, le travail à la chaîne à partir du modèle des abattoirs de Chicago. Ford, donc, connaissant bien les méthodes de travail des abattoirs, étant par ailleurs un homme d'extrême droite tout à fait extrême, ayant des contacts extrêmement positifs, il diffusait une petite revue antisémite, ayant des contacts extrêmement étroits avec l'Allemagne nazie en général et les grands chefs en particulier, aurait donné aux nazis le modèle du camp d'extermination sous la forme du modèle de l'abattoir. Une première objection qui vient à l'esprit est, si tel était le cas, on se demande bien pourquoi les premières années d'extermination ont été des années qu'on peut appeler techniquement de bricolage. Il a fallu bien, bien du temps avant de mettre ça au point. Je laisse de côté la discussion détaillée de la fausseté de cet ouvrage, qui a tout de même été l'objet d'au moins deux comptes rendus d'intellectuels chevronnés, deux comptes rendus élogieux, l'un un peu réservé, un peu embarrassé, l'autre absolument élogieux, alors que c'est un tissu de fausseté. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut lire un tel texte sans l'ombre d'un esprit critique. Tant il est vrai qu'un certain nombre de thèses relèvent de l'adhésion et finalement de la foi, on y croit, et pas du tout d'une réflexion qui se tienne. Il est permis de protéger les animaux sans, c'est le titre d'un ouvrage de Elisabeth de Fontenay, sans offenser le genre humain. À partir de là, donc, on a l'impression, et c'est en quoi je parle de trop près, trop loin, on a l'impression d'un entrecroisement entre les humains et les animaux, d'un glissement, comme sur une règle à coulisses, d'un glissement des positions des uns par rapport aux autres, finalement, plus personne ne se retrouve. Les humains qui aiment, je dirais sans beaucoup de scrupules, qui aiment trop, qui croient les aimer, car l'affection ne fait pas forcément les bons traitements, comme vous savez. Ceux qui aiment trop les animaux les traitent comme des humains, alors que ce n'en est pas. Ceux qui ne les aiment pas leur reprochent en gros de ne pas être comme ils souhaiteraient et éventuellement comme ce type de créature que l'on comprend plus facilement et qu'on appelle couramment les humains. Quantité d'opinions, de discours qu'on entend couramment donne l'impression d'un brouillard qui s'épaissit sur ces questions-là. Et je le dis sous réserve de plus amples confirmations, mais les observations et les discours que j'ai pu faire auprès de vétérinaires, notamment des vétérinaires de campagne, constituent, il y a deux grandes catégories de vétérinaires en France, les vétérinaires ruraux qui s'occupent des animaux d'élevage, en gros, aussi bien de votre chien et votre chat éventuellement, mais surtout des vaches, des moutons, des cochons, des couvées. Les vétérinaires ruraux, qui eux sont sur le terrain et avec des relations de soins et à l'animal et à l'éleveur, où il y a des enjeux importants, puisque c'est le gagne-pain de l'éleveur qui est en jeu, notamment dans les petites exploitations. Et d'un autre côté, la catégorie des vétérinaires des villes, ce que les ruraux, mais les vétérinaires des villes ont adopté l'expression, ce que les ruraux appellent, eux, avec mépris, la canine, parce qu'ils ne soient que des chiens et des chats, disent-ils. C'est vrai qu'ils rencontrent peu de vaches et de chèvres. Ce clivage entre le rural et l'urbain en matière de connaissance des animaux en général, et notamment des animaux d'élevage, contribue à faire, quand on fait du terrain dans des espaces ruraux, quand de surcroît on les connaît bien, je viens d'une campagne de France ultra profonde, où quantité de gens sont extrêmement étonnés lorsqu'on bavarde avec eux de point de vue de citadin sur tout un tas de questions. Ce contraste-là me paraît témoigner, d'une part, je l'ai dit, d'un clivage entre le point de vue de ceux qui pensent mais ne savent pas, et ceux qui savent mais pensent bien sûr, mais ne spéculent pas. On a bien affaire, c'est l'impression qu'on a irrésistiblement, qu'on a affaire à des animaux vrais et des animaux irréels, des animaux fantasmés, des animaux imaginés, sinon imaginaires. Ils ne sont pas imaginaires, évidemment, les vaches et les cochons existent. Mais l'image que s'en fait le citadin est souvent une pure image, dépourvue de la moindre connaissance, ne serait-ce que parce qu'ils ne savent pas à quoi peuvent rimer divers comportements des humains à leur égard. Ils peuvent prendre pour violence des choses qui n'en sont pas, ne pas voir des choses qui sont des violences et qui cependant en sont. Bref, ils regardent les animaux comme si c'était des humains. Et les humains comme si c'était des humains désagréables avec d'autres humains. On a là un glissement des positions qui est tout à fait étonnant. On peut en trouver une expression, tout dernièrement, ces dernières semaines en France, un groupe d'intellectuels a préparé l'annonce en effet un colloque sur la question du droit des animaux et un colloque qui sera suivi et qui accompagnera en fait, c'est-à-dire qui consistera à recueillir un maximum d'analyses éventuellement utiles en vue de déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour instituer un droit des animaux. Il y a des tas de textes qui donnent des droits aux animaux, mais il n'y a pas un droit des animaux. Ce qui pose un problème technique tout à fait passionnant à regarder de près. Si les animaux ont des droits, quiconque bafoue ces droits sera justiciable. Il pourra être jugé et, par exemple, condamné. Question qui avait été posée lors des rencontres animales et société. J'ai fait du tort à une bête, j'allais dire. Non, on dit un animal de nos jours. J'ai fait du tort à un animal. Je me retrouve accusé, je me retrouve condamné à une amende. On ne sache pas, en France du moins, je sais qu'aux États-Unis ça commence à exister depuis quelque temps, on ne sache pas qu'à ce jour les animaux aient des comptes bancaires. À qui sera versée l'amende? La question avait été examinée dans les rencontres animales et société, et bien entendu les très grandes réticences de certains venaient de ce qu'ils pressentaient, peut-être à tort, mais ils imaginaient que les amendes seraient versées à l'association qui aurait pris fait et cause pour l'animal et que cela contribuerait à la prospérité de ces associations. Ce qui, bien entendu, leur suggérait aussi le soupçon odieux que les associations auraient beaucoup de zèle à intenter des procès puisque elles pourraient y trouver un moyen de financement complémentaire tout à fait intéressant. Autrement dit, on a, si je développe un peu ces points-là, c'est pour montrer que sous un discours, et que ce soit volontaire ou pas, hein, dans certains cas c'est manifestement intentionnel, dans d'autres cas les auteurs ne le voient manifestement pas. Tout discours actuellement sur les animaux, c'est-à-dire sur les relations entre les hommes et les animaux, est un discours qui enveloppe une politique et une idéologie. Ça se présente comme un discours moral, mais nous savons par expérience et par théorie que la morale et la politique sont extrêmement difficiles à dissocier et qu'il n'y a pas de théorie morale qui ne soit au moins exclusive de certaines politiques et qui, au maximum, implique, présuppose certaines politiques. Donc c'est tout cet entremêlement qui m'intéresse. Alors qu'est-ce qu'on trouve si on regarde un petit peu tout ça? Je schématise un peu violemment, mais ça donne. Primo, le constat que le discours des humains sur les humains, enfin des humains, pas tous, les discours, on va dire, des militants, pour simplifier, ou des ignorants, souvent aussi, il se trouve quantité de gens qui, lorsqu'ils viennent à avancer un argument un peu hasardeux, bien diffusé par les animalistes, découvrent avec stupeur qu'il existe des mouvements animalistes, des choses comme ça. Bon. De plus en plus, donc, on a un intérêt marqué pour les animaux, intérêt qui est exactement, non, j'exagère, qui est largement proportionnel à l'ignorance qu'on a des animaux. Moins on les connaît, plus on les aime. Il est vrai qu'il est plus difficile de se brouiller avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'il est plus difficile de trouver la position techniquement, moralement et juridiquement approprié dans une relation avec les animaux, puisque dans ces cas-là, la notion de dialogue ne peut être utilisée que par métaphore, et que si je demande à mon chat, et si l'éleveur du coin demande à sa vache comment ça va ce matin, si la nourriture d'hier était bonne, la réponse ne sera pas facile à interpréter. Pour les connaisseurs d'animaux, eux, ils le voient, ils n'ont donc même pas besoin de poser la question. Mais on a là donc une modification qui n'est pas seulement un glissement, mais qui est une modification profonde des relations, du moins dans les pays européens en général et la France en particulier, une modification profonde des relations entre les humains et les animaux. On a une moindre fréquentation, sauf des animaux de compagnie, on a une moindre connaissance, sans commune mesure avec les connaissances antérieures. Lorsqu'il y avait des animaux à tous les coins de rue, tout un chacun savait à peu près comment se comporter avec tel ou tel animal. De nos jours, on ne le sait pas, et si le chien n'est pas au bout de la laisse, on commence à craindre un peu. C'est quelqu'un qui s'est fait mordre qui parle, alors je suis parti pris. Bon. On a donc à la fois un surcroît d'affection, un surcroît de demande de morale, sinon de morale réelle, au point de vouloir l'inscrire dans le registre politique, et en même temps, une très grande ignorance. Autrement dit, moins on connaît les bêtes, et plus on les humanise, bizarrement. Rien n'est intéressant là-dessus, comme justement le discours des vétérinaires, où très très souvent, bon, à la suite de conversation, mais très souvent, lorsqu'ils viennent employer, nous employons tous un vocabulaire anthropomorphe pour parler des animaux. Nous n'en sommes pas forcément tous dupes, mais le vocabulaire anthropomorphe est le plus court chemin pour dire à un autre humain ce qu'on a à dire sur un animal. Le vocabulaire technique ne nous avancera pas beaucoup, ne simplifiera pas la conversation et n'éclairera personne, sauf les spécialistes, bien sûr. Donc, on a là cet étrange mélange d'une ignorance accrue, comme jamais, sans doute dans l'histoire de l'humanité, et de discours prétendument compétents, aussi bien dans l'analyse des faits, l'analyse c'est trop dire, dans la description des faits. Un discours de moins en moins compétent dans la simple description et de plus en plus développé sur le domaine, dans le domaine des principes et des droits et devoirs qui devraient être ceux des hommes à cet égard. Par exemple, parlant des droits et devoirs, par exemple, une des... ça peut paraître minuscule, mais ça, primo, c'est symptomatique. Deuxio, ça suppose une relation au droit qui est quand même très particulière. Le droit français, je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, je sais que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, mais on ne doit pas être les seuls non plus, le seul pays où le droit parle latin. Il parle en français, bien sûr, mais il parle le français au plus près du latin. Et j'en prendrai sur ce point deux exemples qui me paraissent absolument canoniques. L'indignation que produit sur certaines personnes, notamment sur les amis des bêtes, mais même sur ceux qui ne le sont pas, la découverte que les animaux sont juridiquement rangés dans la catégorie des biens meubles. J'ai lu noir sur blanc sous la plume d'universitaires chevronnés. Vous vous rendez compte, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était le sens, vous vous rendez compte, le droit français considère les animaux comme des biens et comme des biens meubles. Entre l'armoire, le chien, la vache, il y a quand même une différence. Oui, c'est vrai, mais meuble ne veut pas dire ce qu'ils comprennent. Meuble, une fois encore, le droit français parle latin. Sans le latin, on s'embrouille en toutes les notions. Le meuble signifie mobile. Les animaux sont des biens meubles, effectivement, ils sont mobiles, ils peuvent bouger. Et il vaut mieux, parce que quand ils ne bougent pas, c'est qu'il y a un problème. Cette notion de bien meuble, c'est-à-dire quelque chose qui est l'objet d'une possession, et qui est meuble, qui peut bouger, ça scandalise, mais parce que les termes ne sont pas compris. De la même façon, on se scandalisera. Excusez-moi, je n'avais pas pensé à prendre assez tôt les notes avec moi, et je suis en train de vous parler de mémoire depuis quelques minutes. Oui, la notion de bien meuble, l'autre grande notion qui fait l'objet de polémiques lorsqu'elle est employée, de malentendus, chaque fois ou presque, sauf avec des juristes, c'est la qualification des animaux de res nul, des animaux sauvages, de res nullius. Ce que j'ai entendu traduire dans une docte assemblée par un universitaire patenté comme chose nulle. Nullius, c'est un génitif. Res nullius, ça veut dire la chose, le bien. Reste désigne n'importe quelle réalité, ça nous a donné le terme de réalité. C'est une réalité, nullius, c'est un génitif de personne, qui n'appartient à personne. Bon. Les animaux sauvages sont typiquement res nullius, ils n'ont pas de maître, ils ne sont la possession de personne. Et bien entendu, une fois encore, j'ai quelquefois une vraie irritation, tous largement ignorants, et moi comme tout le monde, peut-être un peu plus sans doute, mais... Lorsque quelque chose nous paraît très très étrange, il me semble que la première précaution à prendre est d'aller vérifier qu'on l'a compris correctement, que ça ne veut pas dire autre chose que ce qu'on a compris là tout de suite. Donc on va vérifier. Non, il y a des gens qui ont une telle confiance dans leur omniscience que si l'on leur dit « res nullius », ils traduisent vaillamment « chose nulle », peut-elle être nulle, la notion de nullité peut-elle avoir un sens pour ça, ou bien bien meuble. Donc, la revendication, si on raccroche à ça, la revendication actuelle qui vient de surgir, qui est ancienne mais de façon plus souterraine et qui vient de paraître en pleine lumière dans les semaines passées, c'est-à-dire bien après le projet que je vous avais proposé, cette démarche me paraît témoigner d'une sorte d'humanisation croissante des animaux, dit-on, par quoi il faut comprendre de certains animaux. Je doute que la puce et le cancrelat soient aussi humanisés que la plupart des mammifères, et parmi les mammifères, il me paraît douteux que tous soient également humanisés. On a donc, dans les discours qui se développent actuellement sur le terrain de, comme on dit, éthique, ça c'est une, comment dire, oui, c'est une manifestation supplémentaire de l'emprise, de la diffusion de l'anglais sur les langues latines en général d'ailleurs. De l'éthique, on disait autrefois la morale, le terme d'éthique était réservé aux théories légitimant ou fondant une morale. La morale c'était empirique, l'éthique c'était théorique. Les deux étant normalement articulés bien sûr. Les considérations éthiques prennent le pas sur, primo, une connaissance effective, et deuxio, sur la connaissance et la connaissance même des principes sur lesquels elle pourrait se fonder. On a donc là une modalité relationnelle que j'appelle, que je propose d'appeler de substitution. Ça n'est une, ce n'est pas la seule, mais c'est actuellement celle qui me paraît prendre le plus de vigueur. Une modalité relationnelle de substitution en ceci que, même si on n'a pas, peut-être surtout si on n'a pas de relation effective avec des animaux, on a dans tous les cas et de toute façon un discours, on ne peut pas appeler ça des connaissances, en tout cas pas tout le temps, on a dans tous les cas un discours, on a dans tous les cas des opinions sur les principes qui devrait fonder les relations, c'est-à-dire que le discours revendiquant des droits ou des devoirs est fondé sur une critique de la réalité dont on ne connaît finalement que les que les apparences. Anecdote. Je viens et je retourne assez souvent dans une campagne profonde, les vraies campagnes profondes, c'est-à-dire montagneuse, aride et pauvre. Les campagnes de la Beauce sont presque des villes. Les citadins pur sucre qui débarquent dans une vraie campagne profonde sont toujours très étonnés et pour l'indigène très étonnants. Il y a une fois encore chez des gens qui sont tout à fait sympathiques, normaux, enfin c'est pas qui ne présentent aucun trait particulier, mais dans la réalité ordinaire des choses. On mesure à quel point l'absence de connaissance d'une ruralité un peu sérieuse, c'est-à-dire un peu pauvre, peut conduire à des comportements qui peuvent être éventuellement dangereux, notamment quand des bêtes sont en cause. Donc, on a une désertification des campagnes, c'est le point que j'ai laissé de côté pour l'instant, vous le trouverez sous la forme écrite, désertification des campagnes par les éleveurs, par les ruraux, les vrais, c'est-à-dire les cultivateurs et les éleveurs. Et en revanche, il y a plein de néo-ruraux, mais justement, ils sont plus néo que ruraux. Ils n'ont de rural que l'endroit où ils habitent, mais eux ne sont rien des ruraux, ni de près ni de loin. On a donc un remodelage de la population rurale, celle qui est en relation avec les activités productives de la terre et l'élevage. Donc, cette configuration démographique qui a été très, très bien étudiée par deux spécialistes de la chose, et notamment Hervieux, qui régulièrement donne des analyses là-dessus. Cette nouvelle configuration me paraît témoigner de deux choses. Bon, l'ignorance, je l'ai déjà dit, mais deuxio. Question. Pourquoi diable un citadin a-t-il besoin et aime-t-il tant rencontrer des bêtes? Après tout, il a peut-être un chien et un chat chez lui. S'il n'en a pas, il ira, mais rares sont ceux qui n'en ont pas du tout, il ira voir des animaux au zoo, il ira se promener dans la campagne, il sera enchanté de rencontrer pour de vrai un troupeau de moutons, il a même pu les toucher, c'est formidable. De quoi cela témoigne-t-il, si ce n'est, me semble-t-il, je n'ai pas de meilleure hypothèse et je suis prête à en prendre de meilleures s'il y en a. Il me semble que ça témoigne tout simplement d'un besoin, mais quasi constitutif, je n'irai pas jusqu'à dire ontologique, mais d'un besoin constitutif de relation avec les animaux. Ne serait-ce que parce que, comment dire, on peut regarder les animaux, on peut les dévisager sans qu'ils se sentent dévisagés. Ce qui est une exploration du monde vivant qui est pratiquement interdite, dans, tacitement bien sûr, dans l'humanité courante. Le regard peut se poser sur une bête comme il ne se pose pas sur des gens. Il peut témoigner de sa curiosité, il peut témoigner de son intérêt, il peut témoigner de toutes sortes de choses, ce dont le vivant regardé ne s'offusquera pas. Les règles de bienséance sont levées à l'égard des animaux et la curiosité quasi enfantine peut se donner le champ libre et avec le sentiment de liberté qui peut aller avec. Bon, ça c'était la deuxième grande idée que me proposais de développer pour indiquer que dans cette perspective générale, il me semble, et je vous avoue que je me trompe peut-être et j'espère me tromper, mais il me semble que c'est peut-être inquiétant. Il me semble que, une fois encore, cette conjonction étrange d'une passion pour les bêtes, qui n'ont jamais eu dans la presse et dans les livres une présence aussi grande qu'elles ont maintenant. Au XVIIe siècle, les fables de La Fontaine ne parlaient que de bêtes, c'est-à-dire, dans le cas précis, que de gens, que d'humains. Et maintenant, la littérature disponible dans les rayons de bibliothèque ou de librairie sur les animaux s'étend chaque 6 mois considérablement. Il y a remarquablement un autre rayon de publication qui s'étend considérablement, c'est celui qui concerne la cuisine. Question, il serait intéressant de croiser, après les avoir classés, enfin de recenser, quels sont les livres de cuisine qui sont achetés par les carnivores et ceux qui sont achetés par les végétariens. C'est aussi bien un animaliste cohérent et normalement végétarien. Cela dit, il y a aussi des végétariens qui le sont par goût et pas par doctrine. Donc, on a là deux manques dans une époque de cuisine de fast-food, né fast-food, comme disent certains, de cuisine bâclée, une passion pour le restaurant. En une période de raréfaction des bêtes, une passion pour les animaux. L'objet de la passion a toujours, c'est ce qui fait les tragédies, a toujours cette caractéristique d'être à la fois trop près et trop loin. Trop près, parce que la passion est intense, trop loin, parce que justement, son intensité est proportionnelle à la distance et qu'une passion assouvie se décante. Et revient à un régime affectif plus ordinaire, tandis que la passion déçue reste du moins statistiquement ardente. Voilà. Et donc, c'est tout cela étant fondé sur quelques observations que je vous ai données, surtout là maintenant, et aussi sur un parcours qui n'est pas exhaustif, parce qu'à mon sens, il ne peut pas l'être, en tout cas moi, je ne peux pas, un parcours de la littérature concernant les relations hommes-animaux, littérature qui est censée parler en général, mais qui parle toujours d'un certain point de vue, c'est-à-dire d'une certaine position, d'un certain point de vue et de certains animaux. Ça ne fait jamais le tour complet, même quand le discours général, même quand le discours se donne pour général. Voilà, c'est à peu près ça que je vous aurais dit, en mieux, puisque... Mais vous le verrez par écrit.